Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h et le lundi de 13h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Pulps Bordeaux, le comic shop qu'il vous faut. Bonjour à tous et bienvenue sur le 228e Comics Weekly. Nous sommes le jeudi 15 janvier. Il est actuellement plus de 23h au moment d'enregistrer cette émission, car des petits soucis de planning dû à ma faute nous ont repoussé un peu l'enregistrement de cette émission. Programme de ce soir, une émission en duo avec mon cher comparse Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et à tous.
Nous parlerons bien sûr de Marvel avec la grosse sortie, le Star Wars, la suite de S.H.I.E.L.D. aussi, Wolverines, la série hebdo de Marvel. Dans l'indé, nous reviendrons sur le retour tant attendu de Jupiter's Legacy, que tout le monde croyait disparu dans les méandres de l'oubli. Et puis, bien sûr, Conan et Red Sonja en crossover. Et enfin, chez DC, une seule sortie nous a intéressé cette semaine. Il s'agit de Mortal Kombat 10, numéro 1. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Comme la semaine dernière, c'est une émission en duo avec seulement Bruno. Une émission qui sera donc plus calme, plus posée.
Ouais, c'est ça. On va essayer de faire peut-être un peu moins de blagues que d'habitude, quoique, je sais pas.
On essaiera de faire une émission aussi un tout petit peu plus courte. Juste avant de démarrer l'émission, je vais revenir sur un petit commentaire qui nous a été adressé cette semaine, comme quoi on faisait très peu de DC en ce moment. Effectivement, la semaine dernière, deux reviews DC. Cette semaine, une seule review, et c'est Bruno qui l'a lu. Je tenais à m'expliquer un petit peu aussi pour ça, parce que je n'ai pas eu le temps de répondre dans les commentaires, malheureusement, cette semaine. Tout simplement parce que en ce moment chez DC il n'y a pas grand chose qui nous fait bander, pour être assez cru. Peu de séries, on a du retard sur beaucoup, sur les séries hebdo, on en parlait juste avant l'émission avec Bruno, on est très en retard sur les séries hebdo, on n'a pas forcément le temps d'arriver à suivre trois séries hebdo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte déjà du nombre de séries qu'on essaye de lire pour ces émissions. On enchaîne le Weekly News le mercredi soir et le jeudi soir, il faut qu'on enregistre le Comics Weekly. Ça laisse assez peu de temps, on n'arrive pas toujours à se tenir à jour. Et effectivement, les semaines passant, on voit la pile de séries hebdo qui augmente et on n'a pas forcément le temps de tout rattraper. Et comme tu le disais très bien avant cette émission, Bruno, c'est tellement feuilletonnant qu'on ne peut pas prendre un épisode comme ça au déboté, quoi.
Bah oui, ce serait difficile de le critiquer, sachant que voilà, on n'a pas le contexte, qu'on débarque au milieu du film, quoi. Je suis tout à fait de ton avis. C'est vrai que c'est surtout que c'est il y a des semaines en plus chez DC, j'ai l'impression qu'ils mettent toutes les séries qu'on aime bien les mêmes semaines. Il y a des semaines où on a 3 ou 4 titres qu'on lit vraiment avec impatience, et il y a d'autres semaines où c'est beaucoup plus calme. Et voilà, après il y a 2-3 séries qui, par exemple là, je sais que cette semaine il y avait New Suicide Squad, il y avait Clarion, c'est des séries que j'avais commencé à lire mais qui m'ont fortement déçu dès le premier numéro, et j'ai pas eu du tout envie d'y retourner par la suite. Donc ça explique, c'est vrai, ce petit déficit de critique de titres d'essai, mais je pense que la semaine prochaine il y en aura un petit peu plus, et un programme un peu plus intéressant.
Et puis pour être totalement transparent, honnêtement, cette semaine, je n'ai eu qu'une heure aujourd'hui pour lire les comics. C'est tout. C'est tout ce que j'ai eu, une heure pour lire les comics de toute la journée. Et oui, il est 23h15 au moment où on parle. Je n'ai eu qu'une heure de toute la journée pour lire les comics. C'est pour vous dire à quel point on est à flux tendu, puisqu'il fallait monter l'émission d'hier, qui est sortie, il était 22h30 passé, parce que pas pu faire autrement, le travail, des imprévus, des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas forcément toujours le temps. Et actuellement, DC n'est absolument pas bandant. En tout cas, pour moi, DC ne me fait plus rêver. J'espère qu'on aura un gros renouveau et Convergence, et je souhaite et j'espère avoir envie de me remettre à DC une fois Convergence démarrée, et surtout une fois Convergence passée. Mais pour le moment, DC ne me fait plus rêver. C'est tout simplement pour ça aussi que je vais moins vers les séries DC. Alors, n'y voyez pas, qu'on boycotte pas DC ou trucs comme ça. C'est voilà, on essaie de lire le maximum de sorties importantes. La preuve en est avec le Star Wars de cette semaine qui va ouvrir les reviews dans quelques secondes. Même si je suis pas un gros fan de Star Wars, je suis allé lire parce que c'est une sortie importante. Maintenant, le Clarion numéro 5 ou 6, je suis désolé, c'est pas une sortie importante. Je prends un exemple au hasard, mais voilà, ça fait pas partie des incontournables de la semaine
et puis
c'est
bon,
indispensable.
on a un fanboy de DC en la personne de Flo, et il est pas là ce soir, donc voilà. Sinon, il y aurait eu 5 ou 6 reviews DC ce soir, je crois.
Ben voilà, donc on souhaitait adresser un petit peu ce problème, parce que c'est vrai que bon, on n'a pas forcément toujours le temps de s'expliquer ou de répondre par commentaire. Donc du coup, on essaye de répondre au moins à l'audio, et on espère vraiment remonter un petit peu sur DC d'ici quelques semaines. Voilà pour les petites explications, on va démarrer maintenant avec le programme de review de la semaine. On démarre avec le Star Wars numéro 1, grand retour de la franchise chez Marvel, puisque la franchise avait été rachetée par Disney il y a de ça maintenant quelques années. C'est Jason Aaron qui va s'occuper de cette série avec John Cassaday au dessin. Et alors, premier constat, c'est très très beau.
Alors c'est du John Cassaday en meilleure forme que sur Uncanny Avengers. Rappelez-vous ces numéros assez horribles qu'il avait produits il y a maintenant un an ou deux. C'est vrai que là c'est beaucoup plus joli. C'est pas parfait hein, parce qu'il y a des moments où
Non.
on sent qu'il a un peu flemmard au niveau des décors. Mais par contre les personnages sont très ressemblants. Donc de ce point de vue-là, on reconnaît très bien Harrison Ford, Mark Hamill et Carrie Fisher. Donc c'est vraiment très sympa. Ils sont Dark Vador à la classe.
Et surtout, on a un découpage extrêmement cinématographique.
Oui, alors ça joue aussi, je pense, c'est le scénario de Jason Aaron qui est assez bien ficelé.
C'est ce qui pour moi rend aussi le comic très beau, c'est que l'ouverture, on commence avec le classique Long Time Ago in a Galaxy Far, Far Away, le Star Wars en pleine face, et honnêtement, quand j'ai ouvert cette double page, j'ai entendu le générique dans ma tête.
Mais tout à fait, bah pareil, c'est vraiment très très bien fichu. On a l'impression d'être devant un film, et après il y a les premières images,
c'est juste le clin d'œil quoi.
Ouais, c'est le début de l'épisode 4, mais revu un petit peu différemment. Non, c'est il y a plein de clins d'œil d'ailleurs dans ce premier numéro, et c'est quand même une bonne lecture. Enfin bon, je te laisse expliquer un petit peu.
Le principe, donc ça se passe entre l'épisode 4 et l'épisode 5. Si je dis pas de bêtises.
Oui, non, c'est ça, ouais, si tout à fait. Juste après l'explosion de l'étoile noire, la première étoile noire.
De la première étoile noire, oui. C'est qui m'avait mis un peu le doute. Parce qu'il parlait de l'étoile noire, je me suis dit, bon, j'espère que c'est bien la première. Vu le contexte, ça m'a semblé être ça. Je suis loin d'être un fanboy de Star Wars, hein, vous le savez. Je suis beaucoup plus dans la franchise concurrente Star Trek. J'aime bien Star Wars, mais voilà, ça s'arrête là. J'aime bien, point. Je suis loin d'être fanboy, je suis loin de connaître tout l'univers sur le bout des doigts, j'en ai pas du tout la prétention, donc j'ai vraiment lu ça en dilettante, en me disant bon, il faut que je le lise parce que c'est la grosse sortie de la semaine. Voyons si pour quelqu'un qui n'a vu que les films les trois, puisqu'il y en a pas d'autres, je les ai tous vus honnêtement, mais voilà, pour quelqu'un qui a bien aimé mais sans plus, est-ce que ça peut m'attirer? Et oui, ça fonctionne. Alors que pourtant, j'étais parti dans le principe de me dire, bon, je vais lire le premier, mais je vais arrêter là. Ben merde, j'irai lire le 2 parce que c'est bien écrit, c'est bien fichu. Les rebelles, donc, à savoir Han Solo, la princesse Leia et Luke Skywalker, se rendent sur une planète qui fabrique des armes pour tout l'Empire. Et sont arrivés, en fait, j'ose même pas vraiment le dire, parce que j'ai peur d'en avoir presque trop dit. Il y a ce petit twist qui est bienvenu, parce que vu qu'on sait que ça se passe entre l'épisode 4 et 5, on se demande un peu où ça va, au départ. Bon, en même temps, si je dis pas, ça je vais rien pouvoir raconter, mais ils arrivent sur cette base pour faire une négociation. Sur comment peut gérer Jabba, puisqu'en fait voilà, le principe c'est qu'Han Solo vient en tant qu'envoyé de Jabba,
ce qui est assez couillu de sa part, mais oui. Donc on a une période en fait où l'Empire n'est pas encore au courant que Han Solo fait partie des rebelles, puisque après la destruction de l'étoile noire, il y a peu de gens qui ont su que c'était le Faucon Millenium qui était impliqué, et
ils sont tous morts ceux qui le savaient,
voilà, c'est ça. Donc voilà, on est à cette période-là, et on a Han Solo qui se fait passer pour un émissaire de Jabba, alors que c'est Jabba qui a quand même mis sa tête à prix, ce qui est quand même assez couillu pour pouvoir faire des négociations sous-entendu avec l'Empire à propos des armes. Donc voilà, un petit scénario où en fait la rébellion prépare une sorte de petit coup d'attentat pour détruire les armes impériales. Est-ce que ça va se passer comme prévu? On peut s'attendre à ce qu'il y ait des soucis, ce qui arrive très vite hein, d'ailleurs dans le comics avec Avec tout de suite une menace, je m'attendais
Waouh.
pas à ce que ça arrive dès le début, quoi, mais.
C'est clair, je l'ai pas vu venir. Franchement, je me suis laissé emporter, et je suis vraiment pas fan hein, du truc, mais je me suis laissé emporter dedans. J'avais l'impression d'entendre les personnages parler, malgré tout. La preuve que les visages étaient bien faits, au point, étaient très, très ressemblants, au point que j'avais l'impression d'entendre les personnages parler, quoi.
Ouais, non, c'est vrai que le côté vraiment qu'on reconnaît les acteurs, ça aide. Et ça n'a pas toujours été très bien retranscrit dans les précédents comics Star Wars chez Dark Horse, enfin, même s'il y a eu quand même quelques bons exemples. Mais là, vraiment, on s'y croirait. Et voilà, il y a plein de clins d'œil au niveau des dialogues, il y a pas
Pas
mal d'humour.
que chez Dark Horse, hein. Rappelons que Marvel a publié
Oui,
très longtemps
au
des
tout
comics
début,
Star
oui.
Wars,
Ouais,
hein.
c'est vrai aussi. Et donc voilà, on voit qu'ils ont mis quand même les petits plats dans les grands pour ce numéro 1 qui lance une intrigue assez intéressante, même si j'avoue moi que j'étais un petit peu déçu qu'ils replacent encore une histoire entre les épisodes 4 et 5 alors que
C'est
c'est
très
des
proche du run de Brian Wood.
exactement qui est encore quand même très récent. Et là voilà, ils annulent complètement ce run de Brian Wood très très rapidement.
Et ce qui m'embête, bon, on a un peu éventé la surprise de qui arrive, puisqu'on en a parlé un peu tout à l'heure. Bon, on va pas le répéter, si des gens auraient été un peu distraits au moment où on le disait, mais
On l'a pas
on sait
vraiment
très bien
dit.
que, en tout cas pour les personnages principaux, il ne peut rien leur arriver.
Il ne peut rien nous arriver d'affreux
C'est là le
maintenant.
problème, c'est que si encore ça se passait après l'épisode 6, je veux dire, il pourrait y avoir des choses qui seraient reprises ensuite dans le film numéro
Un peu de
7,
tension,
un
ouais.
moyen de, voilà, un moyen de faire un lien vers le film numéro 7. Mais là, clairement, Luke va pas se faire couper la main, parce que ça arrivera plus tard. Oh, j'ai spoilé un film vieux de 30 ans. Je suis désolé, mais voilà, je sais pas, Han Solo va pas se faire crever un œil, Leia va pas se faire couper la tête. On le sait tout ça. Et c'est un petit peu ce problème. C'est vraiment le gros point négatif de cet épisode-là, c'est que vu que ça se passe entre l'épisode 4 et 5, bah, il ne peut rien arriver.
Ouais,
Rien d'important, en tout cas.
ça enlève un petit peu de tension par rapport justement à l'avenir des personnages. Et du coup, c'est vrai que c'est peut-être un peu paresseux de la part de Marvel d'avoir joué cette carte. Après, on peut imaginer là,
Mais c'est le moyen d'attirer le plus de fans.
le titre s'appelle Star Wars, donc vraiment c'est vraiment Star Wars tout court. Commencer avec les persos les plus connus et les plus appréciés des fans, c'est un bon moyen justement d'attirer du monde. Après, on peut imaginer que les prochains arcs ne se passeront peut-être pas toujours à la même période. Il y aura peut-être des arcs qui se passeront après le sixième film. Et voilà. Là, en tout cas, on a un premier arc introductif qui nous montre nos personnages préférés en action. Et voilà, ça a été annoncé comme étant la nouvelle, ce qui est canonique maintenant dans l'univers Star Wars et par rapport au prochain film. Donc ils vont peut-être placer dedans quelques petites pistes pour les prochains films.
Un autre petit truc m'a légèrement dérangé. Après, c'est peut-être le fait que je sois pas hyper calé sur la franchise, mais j'ai trouvé que pour quelqu'un qui venait de découvrir la Force, Luke Skywalker s'en servait relativement bien.
Ouais, enfin c'est pas hyper impressionnant, mais oui, il l'utilise assez. Bah, après
Voilà, il a déjà de bonnes notions sur comment utiliser la Force, quoi.
il a quand même des dons
Oui.
déjà assez génétiquement, il était prédisposé à savoir bien la manier.
On ne parle pas de génétique.
Ouais,
Enfin, oui, tu peux, mais ça dépend comment.
il
Attention.
y a les midi-chloriens aussi qu'il faut rajouter
Putain, non.
dans la
C'était
formule.
le mauvais côté, ça.
Ah, et je me demande s'ils vont revenir et reparler de ça. Mais bon, je pense pas.
Ouais, techniquement, c'est canonique, hein.
Ouais, je sais, mais. Ouais.
Vu qu'il n'y a plus que les 6 films qui comptent.
Bon, bah, en
Mais
tout
bon,
cas.
enfin. C'est bien foutu et comme je dis, même malgré ces réserves que j'ai émises tout à l'heure, comme le fait que Luke, pour moi, utilise un peu trop bien la force alors qu'il vient plus ou moins de la découvrir et que bah on sait très bien qu'il ne peut rien arriver aux personnages principaux, eh bien ça me donne envie d'aller lire le 2, donc j'ai envie de dire pari réussi quoi.
Ouais.
Alors que je pensais même pas aller voir le 2, je pensais honnêtement commencer à lire le premier et même pas aller au bout.
Ouais, c'est un bon moment. C'est pas non plus le meilleur truc que j'ai lu sur Star Wars, mais pour un numéro 1, je trouve que c'est pas mal. Après, Cassadé, c'est quand même du bon Cassadé, même si, par exemple, tu vois, à la fin du numéro, on voit la couverture du numéro 2. Déjà, rien que la tronche de Han Solo, là, il est un peu moins bien réussi. Je sais pas s'il va tenir un rythme au niveau qualitatif qui va être assez constant. Mais bon, donc c'est une bonne lecture. À
En
noter qu'on a
effet.
quelques petites previews des autres titres Star Wars,
C'est bien, j'allais en parler, donc vas-y, je t'en prie.
dont 4 pages pour le titre Darth Vader qui sera dessiné par Salvador Lavorca. Et là, on a
Qui est,
l'impression
je
qu'il
crois, une
s'est...
mini, par contre, non?
Ouais, qui sera une mini, ou peut-être je crois que ça a été depuis prolongé, mais en tout cas, Salvador Larroca a l'air de se déchirer dessus, puisqu'on a quand même 4 somptueuses planches.
Oui. Ah oui, c'est très très beau.
La double page avec Vador est sublime. Et on
Même
a
son
aussi...
jabba, est franchement dégueulasse. Enfin, dégueulasse dans le bon sens.
Non, vraiment excellent. Et on a aussi 4 pages avec Terry Dodson sur Princesse Leia. Là, je suis un peu plus mitigé sur le
Terry
design.
Dodson me déçoit profondément ces derniers temps. Déjà, son Teen Titans Earth One était, je trouve, pas très joli. J'ai connu mieux de la part de Dodson.
C'est clair. Et c'est. J'attends d'en voir un peu plus, mais là, je suis un petit peu déçu quand même par ces premières pages. Mais
Ah
bon,
bah
en tout.
son Han Solo, franchement, tu le reconnais grâce au costume, c'est tout. Hein.
Ouais, non, c'est clair. Il a une tête super bizarre et.
Je veux dire, le nez, c'est pas ça, les yeux, c'est pas ça. Enfin, y a rien qui est ça, quoi.
Mais bon. Donc.
Il fait par contre un joli C-3PO.
Oui, sur les robots, ouais, ça va, ça passe. Ça passe.
Mais ouais, non, je suis vraiment déçu de Dodson ces derniers temps. Enfin, reste à voir ce que ça donnera sur un épisode complet. Mais je trouve pas ça très engageant.
À noter que le numéro était quand même à 5 $, donc un petit peu plus grand. Enfin, voilà, je crois qu'il y a une trentaine de pages. Hein.
D'histoire, oui.
Ouais,
Après, avec
d'histoire.
les pubs et les
Et donc,
previews.
et un code pour télécharger la version digitale. Bon, ça reste un peu cher. Je pense qu'ils auraient pu faire un effort sur le premier numéro, le mettre à 4 $, mais comme on sait qu'ils en ont, ils en ont vendu plus d'un million.
En plus, c'est ça qui est terrible, quoi. 1 million à 5 dollars, quoi.
Je crois que c'est bon, là, ils ont les poches pleines pour quelques temps.
Bah, c'est bon, ils ont remboursé le film. Peut-être pas, quand
Peut-être pas.
même. En tout cas, bye, hein.
Ouais,
Gros
un
bye
bail.
pour cette
Un
semaine.
bail.
Ouais. Ne passez pas à côté. De toute façon, je pense que vos comic shops l'auront, vu le nombre qu'ils ont forcément commandé pour les couvertures variantes.
Un gros bail.
Peu de chance que ce numéro tombe en rupture. Quoique, on sait
Bah
jamais.
en fait, pour tout te dire, nous il est déjà en rupture, mais voilà, après je pense qu'il n'y aura aucun souci pour le recommander vu les quantités qui sont dispo, mais c'est vrai que le truc c'est que par rapport aux quantités initiales qui ont été commandées, les gens qui ont voulu le commander, ils se sont déplacés juste une semaine avant pour les réserver. Donc effectivement, voilà. Donc les copies sont parties très vite à la boutique par exemple.
Si je me permettais un lien avec l'actualité, on dirait un numéro de Charlie Hebdo.
Ça a pas été aussi quand même la pagaille. Mais
Bon, j'avoue, la comparaison est quand même assez étrange. Je m'en excuse pour ceux que j'aurais pu éventuellement choquer. Passons à autre chose, quelque chose qui vient de l'univers télé, plutôt, j'allais dire cinématographique, quoique c'est le même. Il s'agit de Shield numéro 2, Bruno.
oui, une série comics qui est inspirée par donc la série télé, voilà, enfin, ça reste quand même totalement canonique avec l'univers classique Marvel comics, puisque on retrouve les personnages de la série, à savoir l'agent May, on retrouve Gemma Simmons et puis d'autres personnages qu'on peut voir dans la série, mais par contre ils ont des histoires et des origines complètement différentes, beaucoup plus raccord avec l'univers comics. Par exemple, Gemma Simmons, on voit que ses parents sont les patrons de la firme de Roxxon à Londres. Dans le premier numéro, on voyait Coulson qui était directement en contact avec les Quatre Fantastiques, Iron Man et compagnie, chose qui peut pas avoir lieu dans la série parce que voilà, niveau budget, c'est peut-être pas aussi pratique.
Pas que niveau budget, niveau droit.
Et même niveau droit pour les
Rappelle-toi.
Quatre Fantastiques, par exemple,
Voilà.
ouais. Et donc ce deuxième numéro, en fait, ça va s'intéresser plus particulièrement justement au personnage de Gemma Simmons, qui est une xénobiologiste qui travaille donc pour le Shield et qui est un petit peu voilà protégée par Coulson, ce qui en a fait un petit peu sa protégée. Et il l'a envoyée undercover dans une école de New York pour découvrir en fait qui est un gars qui vole des armes à des super vilains, des vieilles armes qu'utilisaient les super vilains et qui finalement se retrouvaient sur un marché de contrebande. Et donc il y aurait un de ces gamins qui ferait du trafic et qui vendrait voilà des vieilles armes de par exemple de Shocker ou d'autres super vilains. Et il se trouve que c'est une école dans laquelle se trouve Kamala Khan, la fameuse Miss Marvel, qui est très populaire actuellement, et à juste titre. Et donc ça sera l'occasion d'avoir une sorte de team-up entre Miss Marvel et Gemma Simmons, pour voilà, un numéro qui est assez fun, assez frais. En plus, j'ai oublié les crédits, voilà. Tu vois, j'ai plus trop l'habitude, ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de Comics Weekly. Donc c'est écrit par Mark Waid avec des dessins de Humberto Ramos.
4 semaines.
4 semaines, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah là, c'était bien. Et et donc avec ce concept où en fait chaque numéro de Shield sera dessiné par un peu un artiste phare de l'écurie Marvel. Le premier c'était Carlos Pacheco, là c'est donc Humberto Ramos. Par la suite on va avoir du Alan Davis, du Chris Prouse. Donc c'est aussi des numéros, on va vers ces numéros pour apprécier le travail d'artistes. Qui sont quand même très très doués. Et là, pour le coup, c'est vrai que Ramos est assez en forme et on a droit à de très jolies planches. Voilà. Après, c'est pas non plus super renversant. Dans le premier numéro, on avait l'impression qu'il y avait un petit fil rouge qui allait être développé parce qu'il y avait justement une sorte de créature qui était liée peut-être à l'univers de Thor, qui avait essayé de détruire le Bifrost. Et donc, il essayait d'enquêter sur qui pouvait être cette créature. Et là, on passe sur complètement autre chose. J'aurais bien aimé qu'il y ait une petite poursuite du fil rouge, mais bon, ça en reste quand même une lecture assez sympathique. Voilà, je dirais un check-it pour ce numéro.
Petite question subsidiaire, est-ce que quand elle est undercover, Gina Simmons a de la peinture sur le visage?
Non, 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 elle n'a pas de peinture sur le visage. Elle ne se prend pas pour Kiss. Mais
Voilà. Au moins, tu as vu la référence.
j'ai vu la référence.
On va passer à la suite. La série hebdo de Marvel, il s'agit de Wolverines, qui en est à son deuxième numéro. Ça fait donc 8 semaines que c'est commencé.
Oui. Mais on nous avait promis, je crois que sur le premier numéro, c'était qui le dessinateur? C'était Bradshaw. Je crois qu'il fait que le
Ouais, c'était
premier en
Nick
fait.
Bradshaw. Ouais. Ouais,
Ouais.
c'était Nick Bradshaw, c'était vraiment très joli. Effectivement, là, c'est pas Nick Bradshaw, mais néanmoins, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Certaines planches sont un peu moins bonnes que d'autres, enfin certaines cases, je dirais. La colorisation y est pour beaucoup. On a un scénario de Ray Fawkes, des dessins d'Alison Borges, et à la colorisation, nous avons Israel Silva et Brett Smith. On suit donc cette équipe de Wolverines avec, je le rappelle, Mystique, Sabretooth, Ladystrike, Daken et X-23 qui sont un petit peu retenus en otage en quelque sorte par cette autre équipe qui s'appelle Paradise qui est composée de Shogun, Neuro, Endo, Skell et Junk. Oui, les noms sont pourris.
Ouais, très
Oui,
90, hein, très années
ils
90.
sont pas du tout charismatiques. C'est un gros problème de cette série, hein. C'est ce que l'on soulignait beaucoup avec Mr. Ren et Benny la semaine dernière. Ils le sont toujours pas vraiment. Un ou deux personnages se distinguent vraiment. Shogun de par son design et son masque, et le fait qu'il soit relativement mis en avant. Junk aussi de par son design. Et Neuro, pardon, commence à peut-être se mettre un peu en place parce qu'il a un long monologue vers la fin, mais ils sont vraiment pas charismatiques, quoi. Ils étaient donc dans une ancienne base de l'arme X, là où est mort Wolverine, parce qu'il voulait récupérer son corps. Ces gens du Paradise ont été créés par le professeur Cornelius, qui, je le rappelle, a fait l'opération qui a rendu Wolverine ce qu'il est avec son adamantium, etc. Ils voulaient récupérer son corps, car ce sont des espèces d'expériences génétiques qui ont foiré, et ils vont crever. Voilà. Et ils ont besoin du facteur auto-guérisseur de Wolverine pour ne pas mourir. Pourquoi cette équipe de Wolverines, donc des personnages qui ont fréquenté Wolverine dans sa vie, sont en leur contrôle? C'est parce qu'ils leur ont implanté des espèces de bombes et qui peuvent les faire exploser à tout moment. Voilà.
D'accord.
Grosso modo. Ils ont des mots de code qui leur permettent un petit peu, enfin, vous savez, ces espèces de mots qui rendent un agent dormant actif. Ils ont des espèces de mots de contrôle comme ça sur les personnages. C'est ce qu'on va découvrir notamment dans cet épisode. À la fin du premier épisode, Daken était en très mauvaise posture. Alors, bon, je vais être obligé de spoiler un peu. En même temps, il est sur la cover suite à l'arrivée de Sinister. C'était le personnage dont je parlais la semaine dernière que je ne savais pas qui allait intervenir et que j'avais été hyper surpris de son arrivée. Je m'étais gardé de lire les interviews concernant la série, et cette claque que j'avais prise en voyant Sinister arriver, arracher le bras de Daken ainsi qu'un de ses yeux, et se barrer avec ça, plus le corps de Wolverine, en disant « Ah, c'est cool, j'ai gagné ce que je voulais. » Voilà. On
D'accord.
apprend aussi dans cet épisode que c'est lui qui avait engagé le fameux Wrecking Crew que l'on voyait poutrer les Paradise et exploser notamment Sabretooth à grands coups de boulet sur la tronche. Dans une scène vraiment vraiment crade qui s'arrête juste avant que ça devienne vraiment trop gore, mais on imagine tout de suite la fin. Et d'ailleurs, on reprend bien sur cette scène avec je ne me rappelle plus le nom de ce perso qui a la boule dans le Wrecking Crew, mais qui dit c'est crado, j'ai des cheveux et de la matière cérébrale partout sur mon acier. Voilà, ça commence comme ça, c'est bien crade. Mystique va intervenir pour essayer de dédramatiser la situation, et surtout l'enjeu de ce numéro, c'est comment on peut sauver Daken qui, rappelons-le, n'a plus de pouvoir auto-guérisseur.
Voilà. Oui, c'est à la suite de quoi ? C'est après avoir été ressuscité ou c'est
Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai toujours pas eu le temps de lire. Alors, je ne sais pas si ça fait partie des séries hebdo, des mini-séries que l'on a vues, les Logan Legacy.
Pourtant, il me semblait que moi, j'avais lu un one shot sur Daken, j'avais l'impression qu'il avait encore son facteur auto-guérisseur. Mais
là, on nous donne quelques explications. Un mec qui l'a à moitié possédé, qui lui a piqué son pouvoir auto-guérisseur, mais je ne reconnais pas ce personnage.
D'accord.
Donc. Soit c'est dans la série Logan Legacy, soit c'est dans la série Weapon X Program.
Ouais, celle-là, je l'ai pas lu encore, mais ouais, c'est possible que ce soit là-dedans, parce que c'était un peu le prologue aussi à Wolverines.
Voilà. En tout cas, il va falloir trouver un plan pour aller infiltrer une base de Sinister, récupérer le corps de Wolverine, parce que sans ça, de toute façon, ils vont mourir, et s'ils meurent, ils feront sauter les Wolverines avec. L'histoire se met en place, c'est bien écrit, c'est assez haletant. J'ai quand même envie de continuer de voir la suite. Donc, pour le moment, ça remplit bien son job. Et pourvu que Marvel ne fasse pas l'erreur qu'a fait DC, sortir 50 séries hebdo. Une seule suffit, quoi. C'est déjà assez difficile à lire une série par semaine, en plus de tout ce que l'on doit lire.
Ouais.
C'est, voilà, pitié, n'en faites pas plus, quoi. Une seule suffit.
Et pour l'instant, on ne sait pas encore vraiment combien de temps elle va durer, parce que... Voilà, en plus DC, voilà, ils arrivent, ils disent, on fait 52 numéros, quoi, voire un peu moins pour les autres séries. Mais là, Wolverines, il n'y a pas eu encore de nombre de numéros définis.
En tout cas, ça reste un bon petit bail, une lecture plaisante, agréable. Donc, j'encourage les gens à s'y mettre. Et puis, même si on n'a pas lu les séries, on arrive quand même à se repérer pour peu qu'on connaisse un tout petit peu les personnages qui ont gravité autour de Wolverine, puisque finalement, les plus intéressants, ce sont ces fameux Wolverines et non pas le Paradise. On continue avec toi, Bruno, pour notre partie Marvel. Tu vas nous parler de All New Captain America numéro 3.
Oui, c'est écrit par Rick Remender avec au dessin Stuart Timonen. Donc un Stuart Timonen plutôt en grande forme, puisque voilà, il a fait trois très très beaux numéros pour le moment sur All New Captain America. Surtout qu'il illustre de très bonnes scènes de combat, puisque c'est quand même très très rythmé jusqu'à présent ces trois premiers numéros. Le pitch, ça se passe après Axis, avec un Captain America qui est redevenu héroïque et qui a été envoyé en mission pour infiltrer justement une base de l'Hydra. Pour sauver un gamin qui se révèle être un inhumain, qui a développé un pouvoir où en fait son sang est capable d'infecter la population humaine et la rendre stérile. Et du coup, ils ont peur que l'Hydra utilise ce gamin pour pouvoir justement empêcher la population de se reproduire. Et c'est effectivement le plan du Baron Zemo qui a créé un antidote qu'il a injecté à tous les agents de l'Hydra, et il veut absolument que tous les autres humains soient rendus stériles pour que seuls les gens de l'Hydra survivent.
Et même plus les Ariens, les gens de l'Hydra.
Ouais, c'est ça, les gens de l'Hydra, voilà. Et on se rend compte en plus que Zemo n'est pas tout seul, puisqu'il est quand même avec des personnages comme Crossbone, Sin, qui fait son retour, et d'autres. Et ça se passe pas très bien pour Captain America, qui infiltre avec le jeune nomade, qui est donc le fils adoptif de Steve Rogers, donc qui l'accompagne. Et en fait, à la fin du numéro 2, Nomad se fait trancher la gorge par Zemo. Voilà. Donc ça se termine de façon assez trash. Alors malheureusement, il me semble avoir lu un numéro d'Avengers qui se passe dans le futur où on voit que Nomad est encore en vie. Donc il y aura peut-être un twist quelque part, mais pour l'instant dans ce numéro 3, on n'a pas d'explication. On part sur le postulat où il est bel et bien mort, puisque Sam Wilson est complètement dépité de ne pas avoir empêché la mort du fils de son meilleur ami, quoi. Et il va se retrouver dans un numéro assez psychologique, puisqu'il va combattre Sin, qui va le mettre face à ses démons et face à son passé, où en fait elle va revenir sur les origines du Faucon et sur peut-être les manipulations de Red Skull, qui avait donné les pouvoirs à Faucon avec le cube cosmique. Alors ça, c'était dans son histoire il y a longtemps. Et en fait, elle met en doute un petit peu son histoire, et en lui faisant croire que depuis toujours il était un agent infiltré et qui donnait des informations au Red Skull sans le savoir, et qu'il avait été programmé pour être près de Captain America. Donc c'est assez intéressant. C'est bien bien rythmé. Il y a un bon petit twist à la fin. Donc voilà.
J'imagine qu'on attend qu'une seule chose, c'est la confrontation avec Eric.
Avec
Eric
Eric.
Zemo. Eric
Eric.
Zemo.
Putain.
Oh, j'étais là chercher
Franchement,
loin, hein, je suis
il ferait un
désolé.
bon membre de leader, hein, mais
Eric Zemmour, ouais.
donc voilà, pour l'instant c'est une bonne série avec de bons dessins en plus. Donc Rick Remender fait du bon boulot. C'est pas non plus super super original, c'est pas renversant, c'est pas la meilleure lecture Marvel de la semaine, mais ça reste un titre assez efficace. Pour moi, c'est quand même un bon bail.
Ah, tu me donnes quand même envie d'aller voir un peu, parce que je dois avouer que quand on a vu le premier épisode avec Bunny, on était un peu tombé d'accord dessus. Ça donne pas des masses envie de voir la suite, quoi.
Ouais, ben là ça se développe un peu plus. Dans le numéro 2, on voit qu'il y a Misty Knight aussi qui est impliquée et qui lui indique qu'il y a beaucoup
Ah.
d'agents de l'Hydra qui sont infiltrés un petit peu partout dans toutes les sphères, que ce soit les Avengers, les Inhumains et compagnie. Donc il y a des choses à creuser encore.
Continuons avec, bah là encore, un thème récurrent, les gens qui se font passer pour morts, puisque nous allons parler de Daredevil numéro 12. Alors pourquoi les gens qui se font passer pour morts? Nous sommes dans un arc en deux parties, c'est la deuxième et dernière partie de cet arc, toujours écrite par Sam Wade, putain n'importe quoi, Mark Wade et Chris Samnee. Remarque que ça donne
Ouais.
un bon mélange.
Ils ont fait la fusion, tu sais.
fusion. Donc Mark Wade et Chris Samnee sont tous les deux... associé pour l'histoire et les dessins pour la partie de Chris Samnee. Matthew Wilson est à la colorisation. Et c'est un arc où Daredevil pourchassait un stuntmaster qui se suicidait et laissait un peu la place à un stuntmaster junior qui, finalement, on l'avait peut-être poussé au suicide et on se rendait compte que ce suicide était finalement un gros fake. C'est tout un plot. C'est la fin de l'arc.
On dirait un épisode de FX effets spéciaux.
Mais voilà, c'est ça, il y a vraiment beaucoup de cascades. Alors cet épisode, alors, je dois avouer que j'avais un petit peu de retard sur Daredevil. J'ai lu cet épisode comme ça et je me suis dit, bon, tant pis, si j'ai pas compris l'arc, c'est pas grave, je vais bien arriver à me démerder. J'ai compris, mais alors cet épisode, même si vous n'avez pas lu l'arc, vaut le coup pour voir Daredevil conduire une voiture, Daredevil conduire une moto
Aveugle.
aveugle, Daredevil conduire une moto qu'il remonte sur le pont de San Francisco. Vous savez, sur ces
D'accord.
espèces de grosses cordes qui montent.
D'accord, ouais, ok, ouais, ça a l'air assez folklorique.
On a Daredevil qui conduit une bagnole dans le trafic. Il faut voir comment il est posé. Hein. C'est-à-dire que debout sur le siège, un pied sur l'accélérateur et sa canne pour tourner le volant. Et vas-y que je fais de la cascade puisque je roule sur deux roues entre les voitures. Il n'y a pas de problème, quoi.
Ils se sont fait plaisir, quoi. Samedi, il s'est fait plaisir avec les
Ah ouais, non,
dessins et
mais
tout.
là, c'est juste n'importe quoi, mais c'est tellement bon. Et franchement, c'est classe. Et puis alors, une petite scène finale très sympathique entre Matt Murdock et sa compagne, pardon. Voilà, une scène assez touchante, assez mignonne. Et voilà, ça fait plaisir de voir Matt Murdock heureux, finalement.
Ils n'ont pas utilisé le nouveau Ghost Rider pour un petit caméo, parce que ça aurait pu être sympa de faire une petite course
Non,
de
même
voiture,
pas.
non?
Même pas. Même pas.
Ah, c'est dommage.
Mais voilà, enfin, c'était bien. Et le plan du Stuntmaster est expliqué. Un plan tiré par les cheveux, mais qui vient d'un esprit malade. Et finalement, ça avait aussi son sens, quelque part. Donc voilà, un bon épisode. Est-ce un bail pour autant, surtout si on n'a pas lu les précédents de l'arc? Non, mais honnêtement, voir Daredevil conduire une bagnole, c'est juste méga classe, quoi. Voilà, c'est vraiment bien. Donc, allez, un bon petit check-it pour cet épisode. J'ai hâte de voir ce vers quoi ça nous emmène, puisqu'on sait que Mark Waid va bientôt arrêter la série. On termine notre partie Marvel avec toi, Bruno. Tu vas nous parler de ce qui est, je crois, ton coup de cœur de la
Oh
semaine.
oui, et loin devant tout le reste, puisque j'ai vraiment pris un pied pas possible avec ce numéro.
Et surtout, c'est un numéro énorme pour Marvel, un numéro 40.
Ouais, numéro 40, quoi, c'est la folie. On est toujours dans Time's Run Out, mais alors là, on est vraiment dans la. Dans du très lourd, du très très gros, et avec des informations, des événements assez catastrophiques pour certains personnages, et voilà, ça dépote, c'est hyper rythmé, c'est très très bien ficelé au niveau du scénario. Alors toujours Jonathan Hickman, Stefano Caselli au scénario, pardon, Jonathan Hickman au scénario et Stefano Caselli au dessin, donc c'est très très beau en plus graphiquement. On est toujours dans cette confrontation entre c'est les Avengers qui ont l'air d'être un petit peu conduits par un Captain America vieux qui en a vraiment gros sur la patate contre les Illuminati. Il y a Reed Richards qui a réussi à empêcher les Avengers de bah justement de les arrêter puisqu'il avait un agent infiltré, à savoir sa femme qui se faisait passer pour une Avengers mais qui finalement était encore avec son mari. En fait tout ça c'était il voulait organiser une sorte de meeting pour pouvoir expliquer à Steve Rogers le plan que Reed Richards a trouvé pour essayer de mettre fin aux incursions. Et ce plan, en fait, on le voyait dans le précédent numéro, il va faire appel à Namor, qui fait partie de la Cabale et qui a décidé, comme la Cabale, elle est devenue complètement incontrôlable. Je le rappelle, on y retrouve des membres comme Maximus, Thanos, les autres Black Swan et compagnie, donc c'est quand même assez des psychopathes, qui s'amusent à détruire des univers pour soi-disant protéger la Terre, mais bon, ils prennent énormément de plaisir à tuer tout le monde.
Puis, si ma mémoire est bonne, hein, la Cabale, c'était quand même le nom que s'était donné Norman Osborn et sa bande pour remplacer les Illuminati.
Ouais, voilà, donc ils ont repris quand même un petit peu cette forme-là. Et donc en fait, Namor a trouvé avec Reed Richards un moyen d'éliminer pour de bon la Cabale. Et c'est un plot qui est vraiment très bien ficelé, avec voilà, beaucoup de personnages qui vont être utilisés, qui vont être impliqués dans ce plan. Mais c'est très fluide, et on a un petit fil conducteur qui va nous amener à la fin de la confrontation entre Black Panther et Namor, quelque chose qui était larvé depuis maintenant de nombreux épisodes,
C'est clair.
depuis que
Bah
Black
depuis
Bolt,
AVX.
voilà, enfin que et puis même Black Bolt aussi avait détruit, oui voilà c'est ça, effectivement la Atlantis, et puis Atlantis avait attaqué aussi le Wakanda, donc
Et puis les Phoenix Files avaient détruit
exactement
le
le
Wakanda. Enfin,
Wakanda, ouais. Et donc là on a vraiment la
donc la
conclusion.
mort en faisait partie, donc voilà.
On a la conclusion de ce face-à-face entre ces deux personnages, et on a un Black Panther, mais alors ultra badass, hyper charismatique. Et alors les 6 dernières pages, c'est cinématographique. J'avais qu'une envie, c'était de voir ça au cinéma parce que c'est excellent. Franchement, c'est énorme. Alors après, voilà, c'est du comics. On sait que voilà, enfin bon, les gens ne disparaissent jamais vraiment, mais en tout cas, c'est fait d'une façon vraiment cool. Donc super numéro. Pour moi, c'est vraiment un gros coup de cœur, et graphiquement plus, ça a envoyé du pâté. Donc allez-y. Pour l'instant, Time's Run Out tient vraiment ses promesses. C'est dense parce qu'entre New Avengers et Avengers, et puis le fait qu'ils sortent de façon deux fois par mois, bimensuelle, ça c'est quand même assez dense. Mais alors franchement. Il tient bien son truc, Hickman, et c'est énorme. Donc voilà, un gros gros bail, et j'adore.
Afin de complètement complet, bonne
Afin de
répétition,
complètement être complet.
nous allons passer au TPB Marvel de la semaine. Trois TPB ont retenu notre attention, le reste sortant déjà en français, on ne va pas vous les rappeler, puisque vous l'aurez en français soit bientôt, soit c'est déjà sorti. Le Marvel Masterworks Incredible Hulk, premier volume, ressort, nouvelle impression pour ceux qui auraient envie de se procurer ces Masterworks. Avec les 6 premiers épisodes de Hulk, c'est vraiment peu. C'est au prix de $50, les 6 premiers épisodes de Hulk, avant que la série s'arrête pour faute de vente et que Hulk rejoigne ensuite les pages de Tales to Astonish. Nous avons aussi, alors attention, grosse grosse sortie à point nommé pour cette semaine, le Star Wars Marvel Years Omnibus, volume 1 en hardcover. Ça vaut $125 et ça reprend les 44 premiers épisodes ainsi que le premier annual de la série Star Wars Marvel de 1977.
Effectivement, ça sort à point nommé. Oui, non, c'est sympa que Marvel les sorte en omnibus, c'est toujours de beaux objets.
Alors, ça commence avec l'adaptation comics de Star Wars épisode 4, donc le premier Star Wars, et ça se termine avec l'adaptation en comics de l'Empire contre-attaque.
D'accord. Et est-ce que
Et
dedans, c'est...
entre-temps, il y a des épisodes, des
Ouais.
passages inédits, évidemment.
C'est pas les versions dont on avait parlé qui étaient recolorisées, ça, je crois que ça sort plus tard.
Alors là, je ne
Non,
vois pas de mention comme quoi
ouais,
ça
non,
a été
je pense que ça,
recolorisé,
c'était
hein.
quelque chose qui était annoncé plus tard. Là, ça doit être vraiment les originaux de l'époque.
Pour les vieux lecteurs de VF, hein, c'est ce que l'on pouvait trouver dans les Titans à l'époque.
Ouais, tout à
Voilà.
fait.
Enfin, un petit TPB sur Deathlok qui s'appelle Souls of Cyberfolk. Ça vaut $40 et ça reprend les épisodes 1 à 15 de la première série régulière de Deathlok chez Marvel US, qui est sortie en 91, ainsi que le premier annual. Ça représente environ la moitié de la série Deathlok. La série Deathlok s'étant étalée sur 34 épisodes. Voilà. C'est tout pour l'OTP Marvel. On va maintenant passer à notre partie indé avec un grand, grand, grand retour. Jupiter's Legacy numéro 5 est sorti. Non, ce n'est pas une
Non, c'est une
blague.
blague. No shit. Non, c'est
Non,
pas vrai.
ce n'est pas une blague,
Tu vas pas me dire
mais...
qu'il y a MPH5 qui est sorti aussi?
Et oui, c'est toujours écrit par Mark Millar et dessiné quand il a le temps par Frank Whiteley. Et le temps, il n'en a pas eu beaucoup, puisque le précédent numéro, Bruno a fait quelques recherches tout à l'heure, est sorti le 5 mars 2014.
Ah, ça fait long, hein, entre deux numéros quand
Ça
même.
fait plus de 10 mois. 10 mois qu'on n'a pas vu d'épisode de Jupiter's Legacy. Et le pire dans l'histoire, c'est quand même que ce numéro se termine avec fin du chapitre 1.
Ah putain, il va y avoir une pause maintenant?
C'est juste une blague, quoi. C'est juste une blague. On a
Alors si entre deux
attendu.
numéros il y a un an, la pause elle dure quoi, 2 ans?
On a attendu 8 mois pour avoir la fin du Book One. Non mais vous rigolez quoi, vous rigolez. C'est juste... L'épisode, eh bien, je dois avouer que je n'ai pas eu le temps d'aller relire les précédents, donc ça a été un peu dur de m'y remettre. On va découvrir un nouveau personnage qui est un ancien héros, ce que l'on va comprendre dans l'histoire, hein, qui est un ancien héros qui n'était pas un héros de premier plan, qui a un pouvoir. Que l'on connaît bien, hein, si on est fan de l'univers Marvel notamment, il est capable de manipuler les molécules d'objets, enfin de matière inorganique.
D'accord.
Voilà. Et son nouveau rôle dans cette nouvelle société où les super-héros sont finalement un peu traqués et bannis, c'est de traquer les super-criminels en fuite. Tous ceux qui n'ont pas décidé de se rallier avec ce nouvel ordre établi. Rappelons que Jupiter's Legacy avait commencé dans les années 30, et puis on avait vu les années présentes, et puis on avait fait un bond dans le temps. Avec une société qui avait complètement dérivé suite à l'accession au pouvoir de cette famille de super-héros, cette famille principale. Voilà. Et on va reprendre l'histoire ensuite là où on en était, c'est-à-dire avec ces enfants de ces super-héros qu'on découvrait au début de Jupiter's Legacy, qui se sont enfuis et qui ont eu aussi, vous savez, cette famille qui était un petit peu à la Roméo et Juliette, quoi. Ces deux parties de la famille qui s'entendaient pas vraiment. Qui ont eu un enfant ensemble et cet enfant découvre ses pouvoirs et veut être un super-héros parce que pour lui il n'y a que ça de vrai. Enfin, on a des pouvoirs, il faut s'en servir pour faire le bien. Et c'est là que les choses vont vraiment déraper. On a un épisode qui est vraiment super sympa à lire, ça pète dans tous les sens. L'histoire avance, cependant, faut se rappeler encore de l'histoire, quoi. C'est le problème. C'est le problème. Donc bon épisode, mais je peux pas mettre un. Enfin, j'ai envie de mettre un bail parce que c'est cool. Mais je vais pondérer ma note parce que voilà, je suis désolé,
Il se
8
fout de
mois
notre
entre
gueule,
deux
quoi.
épisodes, c'est inadmissible. Frank Whiteley, je t'adore, mais tu déconnes. 10 mois, pardon, j'ai dit 8 mois, 10 mois. Tu déconnes, Frank Whiteley. C'est pas parce que t'as été dessiné un putain d'épisode pour Grant Morrison que ça te donnait le droit de perdre 10 mois pour nous sortir l'épisode suivant, quoi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas un travail professionnel.
Et puis comme tu dis, surtout qu'on aurait, enfin, à la rigueur, on aurait plus accepté une pause si ça avait été la fin du chapitre dans le dernier numéro, quoi, mais.
Complètement, complètement. Alors là, il n'est pas fait mention. J'ai essayé de lire. Je l'ai un peu lu en diagonale, je dois avouer. Les pages à la fin, la postface où Mark Millar parle, la nouvelle éditrice de cette ligne parle, etc. Mais il n'est pas fait mention de quand sortira le prochain. Ce qui nous parle, par contre, Mark Millar, c'est que en début d'année prochaine, enfin donc cette interview a dû être faite avant le début de l'année 2015. Donc pour cette année, il doit écrire des choses et notamment un espèce de préquel à Jupiter's Legacy.
Ah oui, c'est vrai, on en avait parlé dans un comics. Okay. Ah, ça me fait marrer.
Non mais voilà quoi, le préquel aura le temps d'être fini, on aura même eu la séquelle avant que l'histoire principale soit finie quoi.
Nouveau concept.
Oh mais voilà. En tout cas, apparemment, MPH4 sera bientôt en vente.
D'accord, ok.
Bref, et puis rappelons qu'en mars, il y a cette nouvelle série Chrononauts hein, qui sort,
Oui,
dessinée par Sean Murphy.
très attendu, ouais, tout à fait.
Voilà, donc je vais mettre un check-it plus. Je suis désolé, je peux pas mettre un buy. Moi, à ce rythme-là, j'ai envie de vous dire, n'achetez pas les singles, attendez les TPB. Voilà, c'est con, hein, mais attendez les TPB. On continue avec une rencontre tant attendue qui n'avait pas eu lieu depuis de nombreuses, nombreuses années. Il s'agit de Conan qui rencontre Red Sonja. Bruno.
Oui, alors c'est écrit par Gail Simone et Jim Zub. Donc, au dessin, on a le très très talentueux Dan Panosian. À vrai dire, c'est vraiment pour Dan Panosian que je suis allé tester ce titre, parce que je suis pas un grand connaisseur de l'univers de Conan, mis à part les films et deux, trois petites mini-séries. Voilà, je suis pas un grand fan de ce personnage.
Tu parles de quel film, Bruno? Attention, attention à ce que tu vas dire.
Bah de Conan, le premier. Ah oui,
mais
je
non.
Parle pas du remake, hein, t'inquiète. Hein. Je parle de celui avec Schwarzenegger quand même. Mais donc voilà, donc au niveau de la patte graphique, Dan Panosian nous sort un travail vraiment très très bon. Sa Red Sonja est super sexy, son Conan est vraiment badass. Les scènes d'action sont stylées. Il y a de la violence, il y a de belles splash pages. C'est voilà, c'est magnifique. Il se trouve qu'en plus même le scénar est plutôt sympathique. Ça va tourner autour d'un personnage assez mystérieux qui a mis la main sur des sortes de graines qui sont capables de faire pousser une plante qui est soi-disant capable de bah d'empêcher
d'atteindre
les.
le ciel et où dans lequel vivent les géants.
C'est ça, exactement, exactement. Non, non, c'est une plante qui envahit tout et qui détruit tout. Et en fait, ils veulent utiliser cette plante pour justement conquérir différentes terres. Et
c'était ça dans Zero Year, j'ai compris.
Exactement, exactement ça. Et donc en fait, on a Red Sonja et Conan qui, en fait, sont engagés par un mystérieux personnage pour aller récupérer un objet auprès du fils d'un roi. Et sans que l'un et l'autre sachent qu'il a été lui aussi engagé par la même personne, donc les deux vont se retrouver face à leur cible et à devoir soit s'affronter, soit essayer de collaborer pour récupérer cet objet. Après, on va se rendre compte que ça va être lié justement à ce fameux vilain qu'on a vu au début et qui joue avec ses petites graines là. Et donc le tout est assez fluide. Il y a un petit peu d'humour. Il y a beaucoup de tensions sexuelles entre les deux personnages, même si Red Sonja ne se laisse pas faire et a vraiment beaucoup de caractère. Son Conan est vraiment badass. Donc c'est vraiment très plaisant. Même si, voilà, comme je vous le dis, c'est vraiment le côté graphique qui va me faire continuer cette mini-série. Parce que, voilà, bon, le pitch avec les graines et la plante qui détruit tout, je trouve pas ça super, super original.
Est-ce que ça donne au moins envie d'aller fouiller un petit peu plus cet univers?
Clairement, je trouve que Red Sonja, c'est un personnage que je connais encore moins que Conan. Et je trouve qu'elle a énormément de classe. J'aime bien son costume.
Je pense que je l'attendais tellement, celle-ci.
Et non, elle s'en laisse pas compter. Et peut-être que j'irai voir le relaunch récent de Red Sonja chez Dynamite, qui est écrit par Gail Simone. Et j'ai entendu pas mal de bonnes choses dessus, donc je tenterai peut-être de tester cette série. À noter que c'est donc un crossover entre Dark Horse et Dynamite, donc ce qui est plutôt sympa. C'est publié par les deux éditeurs. Et donc
avec
voilà,
quand
pour
même
moi, ce sera
petite, c'est quand même publié par Dark Horse.
C'est publié par Dark Horse, mais il y a Dynamite qui apparaît sur la couve.
Ouais.
Et donc pour moi, c'est un check-it. Et je pense que les amateurs de cette franchise, faut absolument qu'ils y aillent parce que voilà, graphiquement en plus, c'est magnifique.
Enfin, pour notre partie indé, tu vas conclure avec une série où j'ai deux numéros de retard, mais une série d'un auteur que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit de Copperhead numéro 5.
Oui, et il me semble qu'on n'en avait pas parlé dans un Comics Weekly.
Pas encore, parce que je l'ai lu en retard, en
ouais,
fait,
voilà.
Copperhead.
Bah, moi, j'étais également dans le même cas, et en fait, j'ai lu les cinq numéros aujourd'hui. Parce que j'avais envie d'en parler, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur cette série à mon comic shop et à juste
et j'adore.
Titre.
Non, mais cet auteur est un auteur hyper talentueux qui malheureusement travaille sur des projets qui n'attirent pas les foules Et j'ai du mal à comprendre. C'est un mec super talentueux, quoi. Je comprends pas qu'il ait aussi peu de succès.
Ouais, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Franchement, j'ai dévoré ces 5 numéros avec beaucoup beaucoup de plaisir. Donc c'est bien écrit par Jeff Herber. Avec au dessin, nous avons Scott Godlewski, que je ne connaissais pas, hein, avant Copperhead. J'ai vu qu'il a travaillé sur des titres pas très connus auparavant. Il a fait du Dracula, du Codebreakers, je sais même pas ce que c'est. Mais par contre, c'est vraiment très très sympa.
Codebreaker, c'était pas chez Boom, ça?
C'est possible, ouais, c'est une sortie Boom. Mais tu vois, je l'ai pas lu. Pourtant, je lis. Je me fais une joie de lire tous les trucs de Boom, mais là, Codebreaker, c'est peut-être un peu plus ancien.
Bon, enfin, en même temps, Boom a 10 ans, hein,
Ouais,
maintenant,
ça,
donc...
voilà. Mais donc voilà, graphiquement,
Bah, si
c'est...
c'était chez Boom, hein, je viens de vérifier.
Ouais, c'est ça. Graphiquement, c'est très très honnête. Franchement, c'est très réussi. Le design des créatures et des aliens
Ah,
est très réussi.
je me rappelle de cette série Codebreakers, excuse-moi, hein,
Ouais, vas-y,
puisque
vas-y.
tu en parles.
Disgrâce.
C'était sur des espèces de hackers qui étaient engagés par une société pour prévoir, si ma mémoire est bonne, pour prévoir les catastrophes qui
D'accord,
pouvaient
ok.
arriver.
Ouais, c'est
Mais on
le...
sentait qu'il y avait un but. J'avais lu le premier, je crois, et on sentait qu'il y avait un but qui n'était pas clair derrière. C'était une mini en quatre.
D'accord. Le dessinateur vraiment s'en tire bien. Alors le scénar, donc je vais revenir un petit peu dessus. Ça m'a fait penser un petit peu au pitch de... Ah, ben, j'ai oublié. La série avec le shérif là qui débarque dans une ville.
Defiance.
Oui, voilà. Bah, Defiance, et puis aussi plus rigolote
Eureka.
là, Eureka, voilà. On a un
Bah, j'ai
shérif.
pensé à Defiance parce que c'est quand même très SF,
Voilà,
Copperhead.
mais Eureka, c'est le côté, c'est un flic qui débarque avec son enfant et qui vient dans un pays un petit peu inconnu. Là, en fait, c'est une nana assez mystérieuse qui a l'air vraiment très très badass.
C'est un peu le cas dans Defiance aussi. Il a un enfant qui est certes adoptif, mais
Oui,
un
c'est vrai,
enfant.
c'est vrai. Et donc, il débarque sur une. Elle a demandé à être mutée sur une planète pour devenir le shérif de la ville de Copperhead. Une planète, en fait, qui était tenue par des extraterrestres qui étaient en guerre avant avec les humains. Ces extraterrestres ont perdu la guerre et depuis, il y a eu un traité de paix. En fait, elle débarque dans cette ville et elle va devoir faire équipe avec un personnage justement extraterrestre qui est vraiment très sympa. Il a un nom impossible à prononcer, mais du coup elle l'a surnommé Bou dès le début, chose qu'il n'aime pas du tout. Mais voilà, il y a tout de suite un duo vraiment sympa entre les deux personnages
Ah bon, on
qui...
peut dire même limite qu'il la déteste, puisqu'il pensait avoir la promotion et
Ouais,
devenir lui
c'est
shérif, et
ça.
bah c'est pas le cas,
Et
quoi.
ouais, et non, et c'est toujours les humains qui prennent les meilleurs postes de toute façon.
Il y a un petit côté
Ouais,
racisme, enfin des thèmes sociaux classiques, quoi.
c'est ça. À côté de ça, il y a un univers assez riche qui est développé autour justement de cette guerre, puisque les humains avaient créé des robots spécialement pour la guerre, qui après la guerre se sont un petit peu retournés contre leur créateur. La shérif est justement complètement anti-robot. Limite, elle veut dessouder tous les robots qu'elle croise sur cette planète, et elle va.
Bah de toute façon, on sent que son passé est pas clair,
Ouais,
hein, dès
voilà,
les premiers
il y a pas
numéros.
mal de mystères derrière tout ça. En fait, ce premier arc va s'intéresser en fait au meurtre assez mystérieux de toute une famille d'indigènes, enfin d'extraterrestres, qui vivaient dans une ferme. Donc voilà, c'est vraiment très enquête, façon une bonne série policière. On peut avoir sur de bonnes chaînes de télévision américaines, avec des fausses pistes, des personnages qui semblent être impliqués, finalement, qui se révèlent être hors de cause, et le tout mêlé avec justement la relation de cette shérif avec son fils, voilà, qui ne l'écoute pas toujours et qui du coup c'est peut-être se met en danger, voilà.
J'ai envie de comparer cette série, voilà. Si vous avez aimé The Fuse chez Image aussi, cette espèce de série qui se passe sur une station spatiale qui est du moins, enfin, moi je la comparais à du Law and Order dans
Ouais.
l'espace, enfin en tout cas sur une station spatiale. Là, c'est véritablement un western spatial
C'est ça. Ouais, tout à fait.
avec ce côté enquête, voilà, mais c'est un vrai western spatial, quoi.
C'est peut-être pas le comics le plus original du monde, mais l'écriture, tu parles de Jeff Herber, c'est vrai que les dialogues sonnent juste, c'est très rythmé, il y a de l'humour, il y a des moments d'émotion, on sent le personnage féminin principal est vraiment très intéressant. Et on a envie d'en découvrir un peu plus sur son passé aussi. Le duo qu'elle a avec l'autre extraterrestre est plutôt cool. Les quelques personnages qu'on découvre dans la ville, il y a toujours un médecin légiste un petit peu barré dans toutes les séries de cop show américaines. Et ben c'est toujours pareil, là On a un legiste qui est tout le temps, qui est tout le temps alcoolisé et bourré, qui est assez fun.
Bah, selon lui, il n'y a que comme ça qu'il arrive à pratiquer des autopsies, hein.
Voilà, c'est ça. Et donc vraiment, vraiment très bien et une bonne conclusion. Là, l'arc se termine. J'ai trouvé ça vraiment très satisfaisant avec la dernière page qui nous donne une petite piste sur quoi ira le prochain arc. Franchement, je vous conseille vraiment cette série. Le volume 1, qui comprendra donc les 5 premiers numéros, sort au mois de février, probablement à 10 € hein, comme la plupart des titres Image. Donc franchement, jetez-vous dessus, ça vaut vraiment le coup.
Pour mémoire, Angie Ferber, c'était la série Noble Causes chez Image, qui avait commencé par des mini, puis ensuite avait eu une série régulière. C'est aussi la série Dynamo 5. Voilà, des grosses séries qui avaient plutôt bien marché chez Image et qui étaient vraiment très intéressantes. Et je vous encourage aussi à découvrir ses anciens travaux si vous ne les connaissez pas. Un scénariste vraiment très très bon qui fait du travail super honnête. Voilà, il ne révolutionne pas les codes, loin de là, mais ce il le fait avec le cœur et c'est vraiment très très bien.
Mais sa série bénéficie d'un bon bouche à oreille, donc je pense qu'elle va continuer tranquillement.
Il avait fait cette très bonne série qui s'appelait Near Death aussi, que j'avais beaucoup
Oui,
aimé.
tu nous en avais parlé tout à fait.
Donc un gros bail hein,
Ouais,
pour toi, hein,
un
cette...
gros bail, et voilà, comme voilà, c'est le numéro 5 qui sort cette semaine, mais je vous invite à acheter plutôt du coup le TP, parce que c'est peut-être difficile de trouver les 4 premiers singles maintenant,
Ouais, mais
mais.
n'oubliez pas qu'il faut soutenir les projets comme ça avec la vente de singles, parce que la vente de TPB ne suffit pas à
Voilà.
faire que la série marche en ongoing.
Donc achetez le TP et le mois suivant, vous avez le nouvel arc qui commence avec le numéro 6 qui sort donc dans 2 mois.
Justement, on parlait de TP, c'est l'heure des TP indés de la semaine, avec notamment Rachel Rising, le cinquième tome qui sort. Je sais que ça sort en français, mais pour ceux qui n'ont pas envie d'attendre, cette série de Terry Moore qu'il sort sous son label Abstract Studio va comprendre les épisodes 25 à 30 de la série. C'est au prix de 17$. Nous avons chez Dark Horse Buffy the Vampire Slayer Season 9 Library Edition, qui est en fait une édition de luxe, c'est-à-dire qui va comprendre deux volumes TPB en un seul. C'est au prix de 30$ et ça va donc comprendre les deux premiers TPB de la saison 9 de Buffy, avec à l'intérieur aussi un sketchbook qui a été agrémenté de nouvelles planches par rapport aux versions TP. Et puis c'est un format de luxe et un petit peu oversize. Nous avons aussi chez Dark Horse du vieux, cette fois-ci Dr. Solar Man of the Atom Archives volume 4, avec les épisodes 23 à 31 de la série originale qui paraissait chez Gold Key à l'époque. Sous prix de 20$, c'est pas très très cher. Et vous avez aussi une petite apparition guest star de Dr. Spector, hein, qui apparaissait dans la série à l'époque, The Occult Files of Dr. Spector. C'est le numéro 14 d'ailleurs qui est reprinté dans cet épisode. Dans ce TPB, pardon. On continue avec du Dark Horse encore. Avec la sortie, alors là c'est vraiment si vous avez envie de découvrir un objet un petit peu ovni, au prix de 10$, c'est pas cher, il s'agit de Plants vs Zombies Timepocalypse.
What?
Oui, il y avait eu cette série Plants vs Zombies Timepocalypse,
Ah
écrit
oui,
par
tiré
Paul...
du jeu vidéo, c'est ça?
tiré du jeu
D'accord,
vidéo,
ok.
voilà, écrit par Paul Tobin quand même, et c'est au prix de 10$, bon, si jamais vous avez envie de vous y essayer, c'est pas excessif. Enfin, une série qui a fait pas mal parler, il s'agit de Veil, série de Greg Rucka et Tony Fecht-Zula au dessin. La mini-série complète, les 5 épisodes, sont collectés dans ce TP hardcover au prix de 20$.
Ouais, très belle édition pour une série vraiment sympa avec graphiquement en plus un style très original.
On passe maintenant à IDW avec les Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures TP qui continue de collecter la série animée adaptée en comics. Ce sont les épisodes 37 à 40 de la série qui était publiée à l'époque chez Archie. Ouais. Les Tortues Ninja ont été publiées chez Archie pour la
D'accord,
version
ok.
animée. Et vous avez aussi dans ce TP qui est au prix de 20$ un épisode de la série Mutanimals. Le numéro 6 pour être complètement complet.
Complet,
J'aime bien
complètement complet, c'est
cette répétition.
magnifique.
J'adore cette répétition. Enfin, deux objets un petit peu ovnis, parce que ça me fait penser pas mal à ma jeunesse et toi aussi, j'imagine, Bruno. Nous avons un graphic novel qui sort sur la vie de Michael Jordan.
Ah, bien
Ça sort
sûr.
chez
Le
Fantagraphics.
fameux numéro
C'est fait
23.
par Wilfred Santiago. Ça s'appelle Michael Jordan Bull on Parade. Alors là, franchement, si ça rappelle pas deux passions de ma jeunesse, Boulogne pareil, Rage Against the Machine, quoi.
Ouais.
Enfin, voilà. C'est au prix de $25. Et enfin, un bouquin, en fait, vraiment un livre, donc avec des mots à lire.
Merde.
Pas des cases, etc., qui s'appelle Wonder Woman Bondage Feminism in Comics 1941 à 1948. C'est un livre écrit par Andrew Oberek, quoique sur la cover que je vois, c'est écrit par Noah Berlatsky, donc j'ai un doute maintenant. Je suis très 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 partagé. Voilà, qui va revenir un peu sur cette période de Wonder Woman qui a été créée et dessinée à l'époque par William Marston, et justement voir un petit peu toutes ces possibles dérives qu'il y avait. Si vous êtes intéressé par le sujet de Wonder Woman, sa création, les controverses que ça a pu provoquer aussi à l'époque, voilà, c'est ce bouquin vaut $26.95. Oui, tu as.
Oui, non, je confirme que Diamond dit que c'est Andrew Oberek, alors que la couverture c'est complètement différent, donc c'est très étonnant.
Peut-être que ce monsieur écrit sous un pseudo. Hein.
Ouais, je ne sais pas.
Enfin, des choses que je ne fais pas d'habitude, mais je vais vous signaler la sortie, en tout cas aux États-Unis cette semaine, de plusieurs films qui pourraient vous intéresser parce que à tendance comics, vous avez le reboot, remake, relaunch des Tortues Ninja qui sort en Blu-ray et en DVD cette semaine, ouais, ainsi que Sin City. Voilà, Sin City sort aussi cette semaine. A Dame to Kill For, évidemment. Voilà, donc c'était vraiment parce que deux grosses sorties comics en DVD cette semaine, je pense qu'il fallait
ça va pas tarder à sortir en France, mais effectivement.
Voilà, pour ceux qui ne veulent pas attendre.
Ouais.
Allez, on termine avec notre seule et unique review d'essai de la semaine. Bruno, tu vas t'en charger. Il s'agit donc de Mortal Kombat X10.
Ouais, c'est
numéro 1.
C'est vraiment DC Comics, quoi. Donc c'est tous les héros favoris de chez DC, hein, qui sont dans Mortal Kombat 10. Dans ça, c'est voilà, c'est clairement un comics qui est lancé pour préparer au futur jeu, donc Mortal Kombat 10 qui va sortir sur les consoles next gen très prochainement. Et c'est écrit par Sean Kittelsen avec des dessins de Dexter Soy. Dexter Soy, qui est un dessinateur que j'aime bien. Il avait fait récemment le crossover entre He-Man et DC Comics. Et on l'avait vu aussi, rappelle-toi Steve, dans
Captain Marvel,
numéro 1, qui nous avait fait forte impression.
Oh là là, cette claque pour son premier travail professionnel, waouh, cette claque. Malheureusement, il n'a pas toujours ce style si beau qu'il avait eu dans Captain Marvel, si impressionnant, si novateur.
Alors sur Mortal Kombat, graphiquement ça reste vraiment très très correct. C'est du bon Dexter Soy. C'est un comics qui est rated M for mature. Donc effectivement c'est du Mortal Kombat, donc on a droit quand même à des décapitations, des giclées de sang et des fatalités. Voilà. Donc ça c'est bien, ça reste bien dans l'esprit. Par contre, j'ai trouvé le scénar. Pourtant, j'ai fait quand même Mortal Kombat 9. Je l'ai trouvé vraiment capillotracté. J'ai pas tout compris en fait. Mais bon, ça reste quand même avec des scènes d'action assez sympas où on voit surtout Scorpion qui est pas mal mis en avant. On nous replace un petit peu brièvement son histoire, sa malédiction, pourquoi est-ce qu'il est, il est pas content, pourquoi est-ce qu'il crache des flammes.
Pourquoi est-il aussi méchant?
Ouais, pourquoi est-il aussi méchant? On se rend compte qu'en fait que Scorpion maintenant il dirige une école, le Shirai Ryu Temple, où en fait il forme des ninjas. Et il va s'occuper en fait d'un jeune garçon qui est en fait un enfant d'un personnage de Mortal Kombat qui se bat avec un bandeau sur l'œil, c'est-à-dire qu'il ne voit rien. Il s'appelle, je ne sais plus comment, parce que j'ai pas joué au Mortal Kombat où il était dedans. Mais
mais j'ai malgré tout, enfin, j'ai découvert cette franchise à l'époque où elle est sortie, hein, comme beaucoup d'entre nous, en tout cas qui ont à peu près le même âge. Mais j'ai jamais vraiment accroché à Mortal Kombat, et me dire qu'ils en sont au 10e épisode de Mortal Kombat, ça me paraît totalement improbable.
Mais c'est
quoi.
La folie. Mais en fait,
ils en ont pas sauté, quoi. C'est sûr.
Non, non, en fait, ils ont arrêté la numérotation à un moment, mais il y a eu plein de spin-off qui sont sortis, et après, ça a été réintégré dans la numérotation. C'est un peu comme fait Marvel.
Il compte aussi celui qui est face à DC ou pas?
Non, je crois que celui-là, il est pas compté. Je crois que c'est à part.
Mais, il est pas canonique.
Non, il est pas canonique. Mais par contre, ça m'a fait plaisir de retrouver Scorpion, Sub-Zero, voir un petit passage de ce fameux Kano, hein, pas celui qui dessine des comics, mais celui qui arrache des cœurs et a un œil de Terminator. On a bien sûr toujours Raiden, et à chaque fois qu'on a une apparition de Raiden, moi je vois notre cher Christophe Lambert. Donc quand il parle, j'ai la voix de Christophe Lambert, donc c'est toujours la classe. Et bien sûr, voilà, c'est ça. Il va y avoir un tournoi, il va y avoir des créatures monstrueuses. Voilà, c'est complètement le bordel, c'est fouillis comme tout, mais c'est joli, il y a des scènes d'action, il y a même les façons rayon X comme ils avaient fait dans le 9, où on voit les
Ah
os
non,
qui se brisent avec le cœur et tout qui est explosé. Il y a des gens qui
là tu me parles chinois, perso.
Y a des gens qui s'arrachent des visages. Non, non, c'est fun. J'irai voir, je pense, le numéro 2, parce que je trouve que c'est quand même un bel objet. Graphiquement, c'est cool. Et peut-être qu'après le scénario, j'arriverai un peu plus à comprendre. Et voilà. Et si c'est lié vraiment avec le futur jeu, comme je sais que je vais jouer à ce Mortal Kombat 10, comme j'avais beaucoup aimé le précédent, bah, peut-être que ça m'apprendra des choses avant de commencer le jeu.
Il faut peut-être rappeler aussi que c'est une série qui ne sort pas d'abord en papier.
Oui, c'est effectivement une série digitale qui est après récoltée en version papier et qui comporte deux numéros digitaux pour le prix de 4$. Voilà. Et autre information, on va avoir une sortie française très très rapide puisque Urban a déjà annoncé une sortie au printemps du comics en version reliée française juste avant la sortie du jeu. Donc
Ouais, il serait con de s'en priver, hein.
voilà,
Franchement.
donc il compte dessus et voilà, c'est voilà un check-it à regarder, à réserver quand même aux fans du jeu de combat. C'est vraiment pas renversant quoi, c'est petit check-it, on va dire.
Et surtout à lire en mangeant du soja, évidemment.
Oui, tout à fait.
Oui, bah, j'ai pas eu mieux comme van, je suis désolé. J'ai vraiment honte, hein. J'ai vraiment très très honte. Allez, on termine avec les TP chez DC. Oui, hein, on s'est expliqué en début d'émission sur notre peu de review DC. Hein, réécoutez le début d'émission, retéléchargez-la avant.
Comme
Faire
ça
monter les
fait
stats
plus
un
de
peu.
clics.
C'est ça. Les TP DC, Trinity of Sin, Phantom Stranger, troisième TP, série qui ne sort pas en français, hein, c'est pour ça qu'on en parle ici, au prix de 20$ avec la fin de la série. Attention, gros, gros, gros volume en perspective, parce que vous aurez les épisodes 12 à 22, ainsi que le Future's End, qui avait en guest star Pandora, Swamp Thing et Constantine, entre autres.
Voilà, la fin
Si ça...
d'une série, ma foi, pas trop mal.
Si ça peut vous aider à l'acheter, à savoir qu'il y a Constantine et Swamp Thing dedans et Pandora. Ou pas.
C'était quand même vachement mieux que Pandora, Phantom Stranger.
Il y avait une série Pandora? Je suis pute quand même. Il y avait une série Trinity of Sin?
Ouais, il y en avait une, mais tu sais, elle va pas faire long feu, hein.
Elle est pas déjà arrêtée?
Non. Non, ils en sont au troisième numéro, ils vont pas l'arrêter au troisième, mais presque, hein, c'est au 6.
Franchement. Bref, si vous avez envie, en tout cas, de vous mettre à cette série, c'est seulement 3 TP. C'est pas énorme, hein. C'est du JM DeMatteis qui pourtant est bon d'habitude, mais
Mais
quand on lui
enfin,
laisse un personnage intéressant, quoi.
c'est pas mal, hein, Phantom Stranger. Vraiment, même le premier TP qui était avec Dan Didio au scénario, je trouvais que c'était assez original et il y avait un côté où il traitait de la religion qui était assez intéressant.
Ah, bizarrement, moi j'ai lu deux épisodes, c'était deux fois la même chose. J'ai fait, c'est pas possible, quoi. Donc j'ai arrêté, quoi. Vraiment, pouvais pas faire autrement. Autre sortie de chez DC, c'est chez Vertigo. Ça sort en français, mais pour ceux qui ne veulent pas attendre, le début du American Vampire Second Cycle sort en hardcover. C'est au prix de 23$. Ça comprend les 5 premiers épisodes de cette nouvelle série, toujours par Scott Snyder et Raphaël Albuquerque. Si vous avez envie de vous jeter dessus, sinon Urban les publie évidemment.
Tout à fait.
Enfin, nous avons le Batman Black and White, quatrième TP, au prix de 20$. Alors, je ne sais pas si Bruno, tu as réussi à avoir la
Alors,
composition de
bah en fait,
ce tome, parce que moi, je n'ai pas eu
c'est un
d'infos.
recueil qui reprend la dernière série Black and White qui est sortie l'année dernière et
Oui,
qui est une
d'accord.
série anthologique où on a des artistes comme Michael Allred, Sylvestri,
Ouais, on
Neil
remarque
Adams
Sylvestri, là.
qui sont passés. Donc
Bah c'est du noir et blanc, comme son nom
c'est du
l'indique.
All-Star sur des petites histoires complètement hors continuité. C'est-à-dire que ça va piocher un petit peu dans toutes les périodes de Batman. On a même un Batman zombie à un moment justement dessiné par Neil Adams. C'est vraiment très sympa. Pour les avoir lus en single, on passe un bon moment et surtout il y a ce côté anthologique où vraiment on a différentes versions du personnage de Batman qui sont vraiment très intéressantes.
Voilà, je n'avais pas la composition, donc merci Bruno de pouvoir me compléter, parce que j'étais un peu embêté pour ce Batman Black and White, puisqu'ils ont sorti toutes les anciennes séries, et je ne savais pas ce qu'il y avait dans ce quatrième tome, qui sera donc pour le moment le dernier, en espérant qu'ils continuent cette initiative qui est toujours très intéressante.
Tout à fait.
Voilà ce que l'on pouvait dire sur les comics sortis cette semaine, émission un peu plus courte, j'espère que ça vous fera plaisir, qu'il ne vous prendra pas trop de temps à écouter, et surtout qu'il vous donnera envie d'acheter plein de choses et dépenser plein d'argent, notamment à Pulse Bordeaux,
Tout
évidemment.
à fait. Vous êtes les bienvenus.
Comment ça, je suis corporate, mais pas du
C'est
tout.
très bien.
On espère que ça vous aura plu, vraiment. N'hésitez pas à commenter hein, sur le site vos réactions, vos reviews de la semaine, hein, des choses dont on n'a pas parlé, ou même des reviews peut-être avec des avis différents des nôtres. Vous êtes les bienvenus. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine dose de comics, et va y en avoir encore la semaine prochaine. Le marché est étouffant, le marché est surchargé, mais qu'est-ce qu'on a comme bonne lecture malgré tout?
Ouais.
Très peu de mauvaises choses hein, cette semaine. Pas de mauvaises choses en fait.
Bah, pas
Finalement.
de passe et
Déjà,
très
c'est
bonne
déjà bien.
de très bonnes surprises et même si mon coup de cœur c'est Avengers, acheter Copperhead, c'est
Oui, soutenez ce projet, soutenez Jeff Herber.
ouais.
Achetez Jupiter's Legacy en TP. Et bon, acheter Star Wars, il y en a déjà tellement sur le marché.
Oui,
Ça se
voilà,
verra pas.
vous ferez partie de l'histoire, vous aurez le Star Wars numéro 1 Marvel qui. Voilà.
Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, @ComicCity, évidemment, et puis nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr. Donc, samedi prochain, le prochain Comics Weekly, mercredi sur synopslive.net, vous retrouverez le Weekly News pour tout savoir de l'actu comics et dérivés, hein, savoir le cinéma et la télé. Et Dieu sait qu'on a comme actu ciné télé en ce moment.
C'est
Et puis
clair.
le gros sujet de la semaine qui reviendra sur Secret Wars, la grosse annonce Marvel, la Announcement to end all announcements.
Ouais,
C'est comme ça qu'ils nous l'ont vendu,
ils ont intérêt, hein, parce que si c'est un truc tout pourri, on va être
hein.
dégoûté, quoi.
Secret Wars, les gens, ils vont se taper dessus.
En
Fin de
fait, il
la
va y avoir
conférence.
des variants de cover de. Je sais pas qui.
On va le vendre 2 millions, celui-ci. Non, non, voilà, grosse conférence de presse qui sera forcément notre gros sujet de la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur synopslive.net et nous écouter en direct pour ce 119e Weekly News, mercredi à 21h. Merci à tous et merci à toi Bruno hein, d'avoir
Merci à
pu
toi
enregistrer
Steve.
aussi tard
Ouais.
puisqu'il est actuellement minuit 20 au moment où on termine cette
Merci à
émission.
toi Steve, je suis en pyjama, je n'ai plus qu'à me jeter dans mon lit, donc ça
Oh, et oui, pour toutes les auditrices, rêvez Bruno a enregistré en pyjama en pensant à vous.
Non mais j'enlève mon pyjama avant d'aller dans le lit quand même.
Oh, Bruno dort nu. Bruno, veux-tu nous parler du bondage et de Wonder Woman pour faire rêver toutes les filles?
Non mais ce que je vais vous dire, c'est que la force soit avec vous.
À la semaine prochaine et portez-vous bien.
Ciao, ciao.